Entendez-vous l'écho? L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Cette semaine, nous partons à la recherche de la classe moyenne, insaisissable catégorie apparue dans le sillage de la Révolution française. Une classe sociale dont les contours nous échappent, mais dont les mots, destruction d'emplois et stagnation du pouvoir d'achat, s'exhibent chaque jour dans l'actualité. Les impôts ont été l'étincelle, mais c'est la fin d'un rêve qui a précipité les dizaines de milliers de Français sur les ronds-points. Le rêve des 30 Glorieuses, celui d'une hausse du niveau de vie et d'une véritable ascension sociale. Un espoir qui se heurte désormais au ralentissement de l'économie et à l'urgence de la transition écologique. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des illusions perdues des consommateurs en compagnie de Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, en compagnie également de Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Sandra Wabian et Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, on va écouter Michel Audiard.
En général, dans mes films, il y a plutôt des Français moyens. On a d'ailleurs des fois reproché de faire des films de Français moyens, mais moi, je ne méprise pas du tout le Français moyen. Je crois que je suis un Français moyen. J'aimerais porter sur ma casquette une pancarte Français moyen. Ça, j'ai jamais pris ça pour du mépris, justement. Moi, je ne méprise pas le Français moyen. Je crois qu'il n'y a que les intellectuels qui méprisent les Français moyens.
Le dialoguiste Michel Audiard, qui était reçu par Jacques Chancel, c'était en 1975. Comment définir d'abord ce qu'il appelle le français moyen, Mathieu Plane? Quelle serait votre définition à vous de la classe moyenne?
Alors, il y a plusieurs concepts. Il y a le concept statistique, hein, qui est assez basique, hein, qui est de définir à peu près 50% des ménages au milieu de la population qui coupe la population en deux. Donc, c'est autour du revenu médian. On va dire, la classe moyenne est au-dessus des, on va dire, des catégories sociales modestes ou pauvres, et moyennes parce que pas assez riches pour faire partie des riches, pour faire globalement. Mais là, c'est une définition purement statistique. C'est vrai qu'on pourra des définitions plus sociologiques. Et puis après, par contre, il y a le sentiment d'appartenance à la classe moyenne. C'est-à-dire, j'avais vu une étude que 75% à peu près des ménages français considéraient appartenir à la classe moyenne. Donc en général, le sentiment d'appartenance est peut-être supérieur à la réalité statistique.
On va voir que ce sentiment d'appartenance, d'ailleurs, est en train d'évoluer. Et il y a l'idée d'un déclassement sur lequel on va revenir. Mais d'abord, sur votre définition, Sandra Wabian.
Oui, alors là, ce dont parle Mathieu Plane, qui est en fait de prendre le revenu médian et d'y appliquer un coefficient. Effectivement, c'est la mesure qu'on prend aussi également au CREDOC, notamment parce que c'est une mesure qui est prise au niveau international, et puis parce que le revenu, c'est quand même un bon prédicteur d'un certain nombre de conditions de vie. Mais néanmoins, on peut également intégrer d'autres critères, par exemple le critère du diplôme. Il y a toute une partie de la population qui est un peu surdiplômée par rapport à la fois son métier, par rapport à ses revenus, et qui donc peut avoir légitimement le sentiment de faire partie des classes moyennes, alors qu'en termes de conditions de vie, elle n'y est pas.
Est-ce que ça a du sens de définir la classe moyenne avant tout à travers son rapport à la consommation? Est-ce que c'est comme cela d'abord que vous la définiriez, Sandra Wabian?
Alors, la classe moyenne, en fait, elle a beaucoup de vertus pour tout le monde, en fait. Donc, quand on est du point de vue économique, on la voit effectivement sur le plan de la consommation. Du point de vue politique, on considère que c'est la stabilité des régimes, que c'est grâce à la classe moyenne, finalement, qu'il peut y avoir une forme de démocratie. Donc, en fait, quel que soit l'angle qu'on va choisir, on a toujours ce sentiment et ce discours autour de la classe moyenne qui fait, en fait, l'État, qui fait l'économie.
Et ce rapport entre classe moyenne et consommation, c'est une relation qu'on a vue en particulier pendant les 30 Glorieuses, où il y avait des enjeux de consommation très forts, Mathieu Plane.
Oui, bien sûr, on voit bien que l'émergence d'une classe moyenne importante, c'est aussi les catégories qui font tourner globalement l'économie. Et effectivement, derrière se cache aussi le sentiment ou pas des inégalités. C'est-à-dire qu'on voit que les pays en développement, finalement, ont des classes moyennes beaucoup plus restreintes, avec beaucoup de pauvres et éventuellement beaucoup de riches. Là, on voit que les pays les plus développés, finalement, agrègent une classe moyenne importante, si on doit définir des critères de revenus dans lesquels ils peuvent appartenir. L'OCDE a fait des études là-dessus. Et on voit qu'effectivement, les pays, on va dire, les plus avancés économiquement, ont plutôt une classe moyenne importante, enfin d'un point de vue purement statistique, si on regarde en fonction du revenu médian.
Et alors pendant les 30 Glorieuses, toute une catégorie de la population découvre notamment les loisirs et les vacances. Mmh. Et ces images sont saisies en 1969 par le cinéaste Pierre Etex.
Pierre Etex, vous venez de terminer votre cinquième film, je crois, qui s'intitule
Pays de Cocagne.
Pays imaginaire?
Pas du tout. C'est la France et les Français.
Voilà, un documentaire qui était assez mal reçu à l'époque sur les plages et dans les campings. Pierre Etex est accusé de tourner en dérision les nouveaux vacanciers. Il s'en explique dans une interview.
On avait le sentiment qu'après mai 68, on ne reverrait plus tous ces abus dans la publicité, toutes ces plages inondées de monde, tous ces campings, ce Tour de France qui proposait des choses inimaginables, des jeux imbéciles, enfin que sais-je. On s'était dit, bon, maintenant on va aller... Et pas du tout, c'était reparti à 100 à l'heure, et ça dépassait même tous les espoirs. Alors j'ai été profondément ulcéré par l'attitude des gens qui organisaient ça, et j'ai voulu montrer les victimes consentantes, en quelque sorte, en me disant que ces victimes, lorsqu'elles allaient se voir, allaient dire, oh ben non, alors ça c'est pas vrai qu'on soit reparti dans ce monde-là. Et c'était mon seul souci de faire rire les spectateurs avec ça. Au lieu de ça, il s'est passé le phénomène inverse. Ça a révulsé la critique entière qui a dit « Mais vous vous attaquez à une couche sociale ». Alors je tapais dans le tas, je n'étais pas spécialement axé sur une couche sociale.
Mathieu Plane, on peut dire que l'âge d'or de la société de consommation finalement allait de pair avec sa dénonciation prise en charge notamment par Pierre Etex.
Oui, effectivement, il y a quand même un lien assez fort entre cette émergence, enfin en tout cas cette classe moyenne et les modes de consommation. En tout cas, on voit, c'était aussi une élévation des niveaux de vie, hein, assez clairement, hein, qui est quand même derrière tout ça. C'est le fait aussi d'avoir un système redistributif avec un modèle social. C'est la possibilité d'avoir des congés payés. Enfin, c'est tout un tas de choses, hein, qui vont définir ce sentiment de classe moyenne. Après, on voit bien qu'il y a quand même une hétérogénéité forte, hein, au sein de la classe moyenne. Hein. Ça peut aller d'un retraité, un actif pas loin du SMIC, à quelqu'un qui est plutôt cadre, jeune cadre, et dans la définition statistique peut rentrer dans les catégories de classe moyenne. Donc, on voit bien qu'on est obligé de parler de la classe moyenne parce que finalement, ça représente un bloc important de la population. Mais au sein même de cette classe moyenne, donc, on a quand même une forte hétérogénéité. Faut pas l'oublier, entre avoir un SMIC ou deux SMIC, à mon avis. On n'est pas dans la même situation. Or, on peut considérer presque que les deux font partie de la classe moyenne.
Hétérogénéité plus forte aujourd'hui que ça n'était le cas pendant les 30 Glorieuses, Sandra Wabian ?
Alors oui, notamment si on prend l'axe générationnel. Puisque en fait, dans les attributs, on va dire, de la classe moyenne, il y a l'espoir de devenir un jour propriétaire. Même si c'est pas tout de suite au début de sa vie, il y a ce projet-là de l'accession résidentielle qui devient de plus en plus inaccessible. Aujourd'hui, les durées d'endettement pour la classe moyenne sont montées à 22 ans. On a pris 7 ans en une dizaine d'années. Donc, ça devient de plus en plus difficile de devenir propriétaire. De la même manière pour le départ en vacances, pour l'insertion dans l'emploi. Donc, effectivement, la classe moyenne, si on la prend du côté des jeunes, on va dire les jeunes qui font partie de la classe moyenne, n'ont pas exactement la même situation que les seniors aujourd'hui.
Et alors quel est le sentiment aujourd'hui qui domine au sein de cette classe moyenne? Selon une étude IFOP publiée en novembre 2019, en 10 ans, la part de ceux qui déclarent appartenir à la classe moyenne est passée de 70% à 58%. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Sandra Wabian?
Alors, ça inspire aussi le décalage entre ce que la société valorise comme standard de vie et ce qu'on est capable soi-même d'atteindre comme niveau de vie. Puisque globalement, il faut quand même le rappeler, les conditions de vie de la population, si on prend un peu de recul par rapport aux 30 Glorieuses, elles ont progressé. On habite dans des logements plus grands, on est tous équipés quasiment de smartphones, on a un taux de 75% maintenant d'équipement de smartphones. Donc, on peut multiplier les exemples, on part en vacances, 60% des Français partent en vacances. Donc il y a quand même un niveau de vie qui n'est pas négligeable, mais on est dans une espèce de course frénétique qui fait que on a beau améliorer son niveau de vie, on n'est jamais aussi bien confortable que ce que nous laisseraient désirer les publicités ou même les émissions, les fictions où on présente des intérieurs qui vont être luxueux.
Donc ces sentiments de déclassement seraient avant tout liés à l'extension des désirs, Mathieu Plane ?
Il y a, à mon avis, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de longue période, hein, qui est quand même que, effectivement, comme ça a été dit là, c'est que les niveaux de vie ont augmenté assez nettement. Alors, bien sûr, pendant les 30 glorieuses, mais même après le premier choc pétrolier, où pourtant on a quand même un ralentissement de la croissance important, il y a une étude de l'INSEE qui montre que le niveau de vie médian, donc vraiment celui qui partage la population en deux, a augmenté de 69% depuis 1975. Donc en 40 ans, c'est quand même conséquent, c'est 1,3% par an. C'est-à-dire que donc les niveaux de vie du ménage médian a augmenté, ça c'est assez clair. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une vraie rupture à partir de 2008, depuis la crise financière. C'est ça le tournant. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des gains de niveau de vie, de pouvoir d'achat, de façon assez régulière, en fait, avec des à-coups qui pouvaient exister. Et à partir de 2008, il y a une vraie cassure dans les évolutions qu'on n'avait pas vues depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, où donc il n'y a plus de gains de pouvoir d'achat. En fait, si vous prenez sur les 10 années depuis la crise, on revient à peine, là, aujourd'hui, au niveau de vie de 2008. Sauf que revenir au même niveau qu'il y a 10 ans, c'est pas ce qu'on avait connu par le passé, parce qu'on avait une tendance à l'augmentation régulière. Et donc, effectivement, pour un certain nombre de ménages, il y a peut-être ce sentiment de pas comprendre pourquoi il n'y a plus d'augmentation de ces niveaux de vie, pourquoi aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être plus de prélèvements opérés, les impôts ont quand même augmenté sur un certain nombre de ménages, il y a moins de prestations sociales reçues, on demande de faire plus d'économies, on va le voir sur les retraites, sur les allocations familiales, sur le chômage. Et donc ce sentiment un peu de déclassement, dire bah en fait je contribue beaucoup mais je reçois de moins en moins. Mais c'est vrai qu'entre cette période-là, il y a une crise financière majeure qui a quand même bouleversé un certain nombre de mécanismes économiques et notamment eu des conséquences fortes sur le pouvoir d'achat.
Sandra Wabian, vous aussi vous situeriez la rupture à la crise financière de 2008 et on a à ce moment-là une influence économique de la classe moyenne qui s'était affaiblie.
Alors c'est sûr que ça a été un choc pour beaucoup, mais je crois qu'il y a aussi un phénomène de longue période qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, Mathieu Plane, le fait qu'on a un ralentissement et donc finalement c'était habitué pendant les 30 glorieuses à un rythme assez soutenu de croissance. C'est pas pareil d'avoir une augmentation de 1% et une augmentation de 3%. 1% on le voit quasiment pas. Et puis après il y a aussi la peur de d'une société qui se polarise au niveau des emplois. Je crois que vous allez
On va y revenir demain.
Absolument. Voilà, qui se polarise aussi en termes de sécurité, puisque finalement, on n'est pas tellement assuré si on a un diplôme d'avoir l'emploi qui va avec. On ne sait pas très bien quelles sauces vont être mangées nos enfants. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché de l'emploi, sur le marché du logement. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a aussi cette perte de la certitude qui explique ce sentiment de déclassement.
Et j'ai pas l'impression que c'était à ce point cher il y a encore 25-30 ans. À l'époque, on se posait quand même beaucoup moins de questions. Et puis, tous les résidents ruraux payent leurs impôts comme tout le monde. Et tout ce qui est services publics, on les voit fondre les uns derrière les autres. Vous avez la maternité de Clermont qui va fermer ses portes, sur Saint-Ju également. Il y avait une permanence de la sécurité sociale. Cette permanence n'y est plus. Donc c'est vrai qu'on sent un certain déclassement au niveau des personnes qui vivent dans la ruralité. Moi, je me lève pas tous les matins en me disant « je vis moins bien que mes parents ». On vit, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même un glissement de la classe moyenne vers le bas plutôt que vers le haut.
Un glissement vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà un extrait d'un reportage de France Inter diffusé le 19 janvier 2019. C'est un témoignage qui illustre bien les propos que vous teniez, Sandra Wabian.
Oui, par exemple, si on prend là l'exemple de ce monsieur, aujourd'hui on a 27% des classes moyennes qui habitent en zone périurbaine. À la fin des années 90, on était à 21%. Donc en fait, on a un éloignement, on va dire, des classes moyennes des centres-villes à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier. Du coup aussi, on a des temps de transport qui sont plus importants. Et donc tout ça donne aussi un sentiment d'éloignement. On l'a vu dans la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas seulement un sentiment. Mmh. De la même manière, sur les services publics, à la fois pour des raisons financières et puis peut-être de rationalité économique, les services publics ont eu tendance à être concentrés de plus en plus avec le temps. Et c'est ce que décrit très bien ce monsieur.
Temps de transport qui a augmenté, dites-vous, mais aussi la part du budget qui est consacrée au transport qui a augmenté, surtout chez les plus aisés de la classe moyenne, ça c'est ce qu'on observe, Mathieu Plane.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on voit bien, hein, le transport est un élément assez important là-dedans, avec l'étalement notamment des villes, hein, et donc on voit bien l'accès est de plus en plus long éventuellement entre son lieu de résidence et lieu de travail. Et donc oui, tout ça participe à un certain nombre de choses, et c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, alors même si je pense qu'il faut être un peu prudent avec cette définition, mais tout ce qui est dépenses contraintes, n'évolue pas comme l'évolution du pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'on a parlé du logement. La part du logement est de plus en plus importante. Effectivement, plus vous êtes modeste et plus vous êtes dans le bas, plus la dépense contrainte va opérer. Alors c'est vrai sur un certain nombre de choses, mais le transport, ce qui n'est pas une dépense préengagée ou contrainte, hein, pourrait être intégré. Il y a un certain nombre de choses, mais bien sûr, le logement devient assez essentiel dans cette analyse.
Qu'est-ce qu'on inclut dans les dépenses contraintes ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle contraintes ou pré-engagées, c'est-à-dire les dépenses que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, supprimer. Et la principale, effectivement, c'est le logement et tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire les factures d'énergie, chauffage, etc. À ça, il y a aussi tout ce qui est assurance, notamment. Il y a aussi tous les engagements que vous avez sur les forfaits mobiles, etc. Les frais de cantine, par exemple, tout ce que vous n'avez pas pour supprimer. Et donc, c'est vrai que cette part a augmenté dans le budget des ménages et d'autant plus dans le budget des classes moyennes. Mais du coup, dans les grandes agglos, je pense que c'est vraiment le sujet du logement est extrêmement important. Donc, vous avez deux phénomènes. Hein. C'est effectivement plutôt un pouvoir d'achat qui stagne, voire même pour certains qui peut se compresser. Moins de services sociaux, moins de services publics, un peu plus, plutôt plus de fiscalité. Et de l'autre côté, les dépenses contraintes qui opèrent. Et donc, c'est vrai que l'impression, peut-être que la classe moyenne s'y retrouve pas, avec après des éléments qui sont factuels, c'est qu'effectivement, on a plutôt tendance à conditionner de plus en plus les prestations sociales à des niveaux de vie. Par exemple, les prestations familiales, et donc c'est concentré plus sur les plus pauvres.
Alors, on va y venir, mais on disait que la part de budget consacré au transport avait augmenté. Mmh. Alors, c'est évidemment lié à la voiture, au prix de l'essence, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais en revanche, la part du budget consacré à l'alimentation, elle a diminué, Sandra Wabian. Donc, on voit bien que ça, pour le coup, dans la part des dépenses contraintes, c'est une part de budget qui recule.
Oui, mais là-dessus, les gens ont beaucoup le sentiment de se restreindre. Globalement, on a toujours à peu près 60% des Français qui nous disent qu'ils se restreignent, un petit peu plus en période de crise, un petit peu moins quand ça va mieux. Mais par contre, il y a certains postes sur lesquels le sentiment de restriction n'arrête pas d'augmenter, et notamment l'alimentation et la santé. Parce que certes, on arrive à se débrouiller en allant acheter chez Lidl ou en allant faire ses courses dans des grandes surfaces qui vont pouvoir proposer des prix avantageux, mais on n'arrive pas à acheter du bio, on n'arrive pas à acheter des produits où on a le sentiment que ça serait bon pour la santé. Toute la journée, on nous répète qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça a un coût financier auquel les ménages ont du mal, que les ménages ont du mal à supporter.
Vous disiez tout à l'heure, Mathieu Plane, qu'il y avait cette stagnation des revenus depuis la crise financière. Ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que ces revenus, les revenus de la classe moyenne ont augmenté très peu ou quasi stagné depuis une décennie, mais que parallèlement, les plus hauts revenus ont beaucoup plus augmenté. Mmh. C'est aussi ça qui contribue au mécontentement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu... Enfin, voilà, c'est une analyse hein, parmi d'autres, mais c'est que bon, le choc de 2008 a vraiment été extrêmement fort. Il a touché à peu près toutes les catégories, en particulier la classe moyenne. C'est vrai que les plus modestes ont été quelque part impacté, mais quand même protégé par le système social hein, et le fait qu'effectivement il y a un certain nombre de ressources qui sont affectées pour créer de la redistribution, éviter l'augmentation des inégalités. Et de l'autre côté, effectivement, les plus aisés ou les plus riches qui ont vu à nouveau une dynamique du revenu augmenter ou du capital, du patrimoine financier. Et donc ce sentiment d'être rattrapé plutôt par le bas, où effectivement on a pas mal de redistribution qui se fait vers le bas, et la classe moyenne, finalement, s'y retrouve pas là-dedans, avec l'impression de payer plus et de recevoir moins, et surtout d'échapper vraiment. Alors, est-ce que c'est une réalité ou pas? Parce que c'est pareil, qu'est-ce qu'on définit par des hauts revenus, les plus riches? Est-ce que c'est quelqu'un qui a 4000 euros, c'est quelqu'un qui en a 20 000? Voilà, ce qui est quand même très différent. En tout cas, ces ménages-là ont des dynamiques de revenus qui sont pas du tout les mêmes, notamment, et puis avec le sentiment peut-être que eux échappent justement à la crise et que quand il a fallu éponger la crise, quand il a fallu résorber les déficits, quand il a fallu faire des mesures de compétitivité pour les entreprises, il avait bien fallu les financer effectivement, et les ménages, on a eu de la classe moyenne, ont été quand même mis largement à contribution pour tout ça, et avec le sentiment de ne pas recevoir à hauteur de ce qui a été construit.
Mais ce qui est intéressant, Sandra Wabian, c'est que ce phénomène de stagnation des revenus de la classe moyenne, ce n'est pas un phénomène français. On le constate un peu partout dans les pays de l'OCDE.
Oui, on est même plutôt pas mal loti en France, hein, puisque la classe moyenne a tendance à se réduire dans un certain nombre de pays, sauf en France, où elle a eu tendance à progresser.
Et ça s'explique... Alors même que le sentiment régresse.
Voilà.
Et le sentiment d'appartenance à la classe moyenne.
Alors, oui, qu'il y a un sentiment de déclassement, effectivement. Ça s'explique notamment par les mécanismes de protection sociale. C'est-à-dire que certes, les personnes de la classe moyenne ont le sentiment de ne pas recevoir assez d'aide, mais il y a quand même une partie des personnes qui étaient pauvres qui basculent dans la classe moyenne grâce au système de protection sociale français. Donc ce système de protection sociale, il a quand même le mérite d'être un filet de sécurité. Après, c'est vrai qu'il y a eu une concentration au cours des 30 dernières années des aides avec des plafonds de ressources de plus en plus. Et ça a plein d'effets négatifs, et notamment le fameux effet de seuil, c'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment d'être au-dessus des seuils. On peut le voir par exemple sur le système des allocations familiales. Auparavant, les allocations familiales, elles étaient versées à tout le monde. Aujourd'hui, il y a un tiers des prestations qui sont versées par la CNAF qui ont il y a seulement un tiers qui n'ont pas de conditions de ressources. Et donc finalement, on a toujours le sentiment d'être perdant. On se dit toujours, l'autre a reçu plus que moi.
Ce serait intéressant de voir aussi comment les systèmes de redistribution diffèrent selon les pays et l'impact que ça a sur les classes moyennes. On va y venir. Mais alors, on a vu que ces revenus de la classe moyenne dans l'ensemble stagnaient depuis 10 ans et que parallèlement, le coût de la vie avait augmenté. En particulier le coût du logement.
Le logement marque un décalage complet entre les deux classes moyennes à une génération de distance. C'est-à-dire que dans les années 70, l'argent des parents, leur épargne, l'héritage, c'était pas si important. Les salaires étaient suffisants pour être autonomes dès l'âge de 25 ans, à la location et un peu plus tard à l'achat, pour se réaliser soi-même et proposer à ses enfants une bonne carte scolaire, des conditions non seulement de logement, mais aussi de tout ce qui a trait à la proximité au voisinage, qui permettait en fait de bénéficier d'un sentiment de mobilité sociale ascendante géographiquement parlant, par l'habitat, qui s'est arrêté. Et ça s'est arrêté d'une façon assez brutale dans le courant des années 90, et une deuxième fois au début des années 2000, où même aujourd'hui avec de très bons salaires, vous ne pouvez plus vous loger, pas simplement à Paris où c'est la chose évidente, mais dans toutes les grandes villes de région. Vous avez deux groupes dans chaque classe de cette société, vous avez deux sous-groupes dans chaque groupe de la société, ceux qui en ont du patrimoine et ceux qui n'en ont pas.
Le sociologue Louis Chauvel, invité par nos confrères de France Inter. Le sentiment d'appartenance à la classe moyenne qui recule, Sandra Wabian, pardon, c'est lié à cette difficulté croissante à devenir propriétaire de son logement, avec cette idée que c'était un des aspects centraux dans la constitution de la classe moyenne.
Oui, en fait, on dit que le parcours résidentiel s'est grippé. C'est-à-dire qu'auparavant, on commençait sa vie en étant locataire. Tout le monde l'acceptait plutôt bien, mais en se disant qu'à un moment donné, on allait être en couple et puis petit à petit devenir propriétaire. Aujourd'hui, pour être propriétaire, il faut être systématiquement en couple biactif, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 40 ans. Il faut disposer d'un patrimoine de départ. Il y a de moins en moins de primo-accédants. Donc la marche est trop haute pour rentrer finalement sur l'accession à la propriété. Et pourtant, le modèle qui est défendu par tout le monde, y compris les Français, c'est l'idée de cette petite maison individuelle qu'on va avoir avec un petit jardinet et sur lequel on va avoir une espèce de petit îlot de bonheur dans un monde de brut, si je puis dire.
Rêve est resté le même, les conditions pour y parvenir.
Le rêve est resté le même, avec des effets négatifs et notamment la montée en puissance des propriétaires pauvres. On l'a vu, c'est quand même eux qui ont été au déclenchement de la crise des subprimes aux États-Unis. Et donc, il y a toute une partie de la population qui s'endette, mais qui, du coup, n'a plus de marge de manœuvre pour remplacer le frigo quand il tombe en panne ou aller remplacer un meuble qui est trop abîmé.
On va venir à cette question essentielle du surendettement, mais un mot d'abord, Mathieu Plane, sur cette hausse des prix du logement, et on peut aussi parler de la hausse des coûts de la santé liés au vieillissement, ou encore, alors c'est moins le cas en France, mais de la hausse du coût de l'éducation, tout cela participe à cet appauvrissement ou sentiment d'appauvrissement des classes moyennes.
Alors, c'est vrai que même, faut rappeler que le système socio-fiscal français est assez protecteur quand même, et qu'il a limité quand même la casse à travers la crise. comme Sandra l'a souligné. Et c'est vrai que notamment la question de l'éducation et la santé sont extrêmement importantes à travers ça, en France notamment. C'est vrai que ça participe à la réduction des inégalités et l'accès à la santé et l'éducation sont quand même, à mon avis, essentiels. Sur le logement, il y a un peu ce paradoxe, parce qu'effectivement aussi les conditions financières n'ont jamais été aussi bonnes pour pouvoir s'endetter, accéder
avec des taux bas, voire négatifs.
Mais alors par contre, c'est sur des durées de 15, 20, 30 ans quoi, d'endettement. Après, avec la difficulté toujours sur des longues périodes, de bien intégrer les effets de qualité des logements aussi. Hein. C'est-à-dire que les logements ont quand même évolué depuis 40 ans et on n'a pas les mêmes logements. Mais par contre, se pose la question effectivement des grandes agglomérations, des centres-villes, des temps de transport entre sa zone de résidence et sa zone de travail. Tout ça peut participer à ce sentiment de déclassement, ce qui fait que la taxe carbone et le prix de l'essence ont pu être un élément déclencheur de la crise.
Meilleure qualité de logement, vous parlez par exemple de logements mieux isolés dans la perspective de la transition énergétique.
Oui, bien sûr, c'est aussi une taille des logements par habitant qui augmente. C'est-à-dire qu'il faudrait contrôler aussi de ça. Donc c'est vrai que dans la dépense contrainte, il y a la vraie contrainte et il y a le fait que des gens préfèrent avoir des logements plus grands. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Sans le transport, il n'y a pas que du transport professionnel, il y a aussi du voyage. Donc tout ça, il faudrait bien le prendre en compte dans la dépense contrainte. C'est celle vraiment sur laquelle on ne peut pas arbitrer. Mais le logement reste effectivement quelque chose de central et essentiel sur ce sentiment d'appartenance et sur les inégalités que ça peut créer. Et par rapport à ce que disait Louis Chauvel, il y a une étude de France Stratégie qui montre quelque chose d'intéressant, c'est que la transmission au début des années 80, et succession, ça représentait à peu près 8% du revenu des ménages par an. Aujourd'hui, on est à 20% du revenu des ménages, et les projections montrent que d'ici 2030-40, on sera à 30%. C'est-à-dire que donc, les donations transmissions participent de plus en plus au revenu des ménages qui reçoivent. Avec le problème, c'est qu'en général, ceux qui reçoivent sont dans des positions en général plus favorables que ceux qui ne reçoivent pas. Donc c'est un peu le double effet. Déjà, ceux qui s'en sortent mieux reçoivent en plus, et donc il y a le sentiment d'inégalité qui se fait, et qui est lié notamment à la forte augmentation des prix du foncier, du prix du logement. C'est-à-dire qu'une fois que les baby-boomers progressivement disparaissent, ils vont transmettre ça, et ces prix des actifs va être reçu par un certain nombre de ménages. Ça pose un certain nombre de questions. En tout cas.
Et ceux qui ne reçoivent pas de patrimoine peuvent avoir tendance à s'endetter, voire à surendetter. Je vous propose d'écouter une lecture de Rose à crédit, le roman d'Elsa Triolet, paru en 1959. Un roman qui raconte l'histoire de Martine, née dans une famille pauvre, qui rêve d'améliorer son confort et multiplie les achats à crédit jusqu'au jour où elle ne peut plus honorer ses dettes.
Ce fut la machine à laver qu'on enleva en premier. Mais sérieusement, Martine n'en avait pas besoin. Dommage pour l'argent dépensé. Encore 3 mois et elle l'a gardé. Mais voilà, Martine ne possédait pas les quelques billets de 1000. Il fallait payer tout le reste. La place récupérée dans la petite cuisine facilitait les mouvements. Avec la machine, on ne pouvait plus y retourner. Et pourtant, ce coin libéré de la machine à laver, vide, était comme le symbole d'une défaite. Il rappelait à Martine comment elle se trouva sur la scène d'un théâtre, incapable de répondre à une seule question, muette. Puis ce fut le tour de l'argenterie. On ne pouvait lui reprendre son salon en rotin. Cela ne se faisait pas à cause de l'usure. Là, elle pourrait avoir des ennuis d'une autre sorte. Mais peut-être si on lui laissait le temps de se retourner. En attendant, ce salon était si joli. Avec le lierre sur le balcon qui couvrait maintenant tous les barreaux et encadrait la porte vitrée. Martine se débattait. Empruntait à l'un pour rendre à l'autre, tenait une véritable comptabilité pour garder l'équilibre, faisait des économies de bout de chandelle. Dans un an, cela serait fini. Un an, oui. Si tout se passait bien, parce qu'elle marchait sur une corde raide et qu'il ne fallait pas qu'elle s'énervât et recommençât à faire des mouvements désordonnés, c'était comme ça qu'elle s'était fourrée dans le guêpier. Du calme, et elle mettrait de l'ordre dans sa vie.
La fin du premier volume de la trilogie qu'Elsa Triolet consacre aux artifices de la modernité. Trilogie intitulée « L'âge de Nylon ». Ce que le roman nous raconte, c'est que le rêve de consommation peut mener au surendettement. Est-ce que c'est encore plus le cas aujourd'hui, Sandra Wabian, 60 ans après la parution de ce roman ?
Par exemple, si on regarde les encours de crédit à la consommation, ils ont été multipliés par 3 en l'espace de 30 ans. Donc on sait que les Français ne sont pas parmi les plus gros consommateurs de ce type de crédit, mais néanmoins il y a une pression quand même qui s'exerce petit à petit pour essayer d'avoir cette espèce d'équipement standard qui fait qu'on se sent en situation normal, en situation de vivre dignement. Et par exemple, par rapport aux dépenses pour les enfants, il y a très fortement ce sentiment de devoir acheter pour l'enfant un petit truc de marque qui lui fera plaisir pour la rentrée scolaire, de pouvoir lui payer des vacances, d'avoir au moins une activité extrascolaire. Et tout ça, c'est des dépenses qu'on peut considérer comme des dépenses superflues, mais qui donnent le sentiment aux parents d'être des bons parents, qui gâtent leurs enfants et qui s'en occupent comme il faut.
C'est ce qui explique que le surendettement menace aujourd'hui davantage peut-être les classes moyennes que les classes populaires, Mathieu Plane ?
Oui, potentiellement. D'ailleurs, il faut rappeler que la crise, alors pas vraiment en France, mais qu'on a eu en 2007 dans la plupart des pays développés, en particulier aux États-Unis, on l'a retrouvé aussi notamment en Espagne, un certain nombre de pays d'Europe du Sud, en fait, a été lié en partie à ça. C'est-à-dire qu'on a vu une explosion de l'endettement privé, en particulier des classes moyennes, pour une raison assez simple, c'est que, à un moment donné, quand les revenus du travail n'augmentent plus assez vite et que vous souhaitez quand même écouler votre production, une des façons de le faire, c'est effectivement d'endetter les classes moyennes. Donc, il se pose derrière tout ce qui est ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée, la distribution des richesses, et qui fait qu'aujourd'hui, cette classe moyenne a une concurrence mondiale qui est féroce. On le voit, il y a un certain nombre d'études qui montrent que, effectivement, c'est plutôt la classe moyenne des pays développés qui a subi depuis 30 ans cet appauvrissement, avec les pays émergents qui ont quand même rattrapé ou qui ont eu des niveaux de vie qui ont augmenté, et les plus riches des pays développés qui ont continué à avoir des fortes augmentations. Et donc, cette classe moyenne qui est mangée un peu par les deux bouts, à la fois les riches qui échappent à tout ça et qui sont de plus en plus riches, et l'émergence des catégories de classe moyenne justement des pays émergents qui, pour le coup, connaît des vrais gains de pouvoir d'achat. Et ce qui, avec certainement des conséquences politiques qu'on connaît actuellement. Quoi.
Et le surendettement est un aspect essentiel, mais il y a aussi la vulnérabilité au choc. Et là aussi, on constate, Sandra Wabian, qu'il y a une proportion de la classe moyenne de plus en plus importante impliquée.
Oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous soulevez avec ce mot de vulnérabilité. On est en train de travailler là-dessus au CREDOC. Avant, on parlait de pauvreté, puis après, on a parlé de précarité. Maintenant, on parle de vulnérabilité. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit notamment que, en fait, on est dans une période d'incertitude, dans un monde dans lequel on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, finalement, c'est pas tellement qu'on va être pauvre, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, tout le monde peut être mis dans une situation parce qu'il va avoir un problème de santé, parce qu'il va divorcer, parce qu'il va perdre son emploi et tout un tas de facteurs, dans une situation de vulnérabilité qui peut entraîner une forme de cercle vicieux. Et on le voit par exemple dans la crise des gilets jaunes, les gilets jaunes sont plutôt des classes moyennes inférieures, et une part importante d'entre eux a eu des accidents de parcours de vie en fait, a perdu quelqu'un dans ses proches ou a subi un des événements dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce sont des événements qui sont ensuite très fragilisants et qui font qu'on va pas
réussir. C'est très difficile de rebondir.
Voilà, c'est difficile de rebondir.
Alors on va voir en tout cas que la redistribution et les systèmes sociaux selon les pays permettent de prévenir ou peut-être de remédier dans une certaine mesure à ces chocs, on en parle dans un instant.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau. Il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau.
La pluie d'Aurel San avec Stromae sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Sandra Wabian, chercheuse au CREDOC, est restée avec nous pour continuer à parler de la menace réelle ou fantasmée du déclassement.
On écrase nos classes moyennes. On a d'un côté des riches qui se sont enrichis par les mesures de libéralisation qu'on a prises depuis une vingtaine d'années pour coller aux nécessités du marché mondial. Donc les revenus du patrimoine à travers l'évolution des marchés financiers, du marché immobilier sont améliorés. Pour corriger ça, et je ne le conteste pas du tout, on a augmenté encore et toujours les prestations sociales à l'égard des plus pauvres, mais on a au milieu 20 à 22 millions de Français, les Français moyens, qui payent des impôts, reçoivent 5 fois moins de prestations que les ménages pauvres, ont des revenus du patrimoine 5 fois moins importants que ceux des ménages riches en proportion de leurs revenus, et qui en plus ont vu leurs revenus stagner depuis une dizaine d'années. C'est les laissés pour compte de notre système. C'est eux qui ont fait leur mai 68 à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. On avait prétendu, notre système social prétendait qu'il allait consacrer les classes moyennes et il les a massacrées.
Notre système social a massacré les classes moyennes. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Denis Oliven, l'ancien patron du Nouvel Obs et d'Europe 1, Sandra Wabian?
Alors, il y a du vrai. Dans le sens où, effectivement, les prestations sociales se sont vraiment concentrées sur les plus modestes. Donc, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a la moitié, 46% des prestations sociales qui sont captées par les 10% les plus pauvres. On était auparavant à 10%, justement. Donc, un recentrement qui s'explique parce que d'un côté, il y a des besoins qui sont en progression. On a le vieillissement, on a la dépendance, on a des besoins de santé, on a des besoins d'éducation. Donc tout ça ne fait que progresser. Et d'un autre côté, on a des ressources qui, à un moment donné, sont plafonnées. Les impôts ont quand même pas mal augmenté au cours des 30 dernières années. Et donc on est à une limite. Et donc comment est-ce qu'on résout l'équation? On se dit, on va les cibler sur les plus pauvres. Le problème de ça, c'est que d'abord, il y a un phénomène de non-recours, c'est-à-dire que tout le monde ne sait pas exactement à quoi il a droit, puisque les prestations sont de plus en plus ciblées sur des caractéristiques, les foyers monoparentaux, ceux qui ont tel et tel système de problème. Et puis surtout, on a un consentement, un soutien à la protection sociale qui s'érode, et notamment chez les classes moyennes inférieures, qui ont vraiment le sentiment d'être les perdantes du système.
Mais c'est le cas dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elles sont davantage soutenues au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves, par exemple, par rapport à la France?
Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a un système de protection sociale qui est assis sur le salariat et qui aujourd'hui est beaucoup remis en cause parce que tout le monde n'est pas salarié, parce qu'on peut être indépendant, parce que voilà, tout un tas de raisons. Et donc le système essaye un petit peu de s'adapter et donc procède par touche en créant des prestations pour différents types de publics.
Lesquels par exemple?
Par exemple, voilà, les foyers monoparentaux, ou alors on va aller sur les personnes en situation de handicap, la garantie jeune. Donc un certain nombre de dispositifs qui vont toucher des publics bien précis.
Mais ça ne compense pas la perte chez ces classes moyennes inférieures en France par rapport à d'autres pays?
C'est surtout qu'en fait, dans les pays notamment nordiques et les pays anglo-saxons, on a des prestations qui sont davantage universelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées au travail. Par exemple, dans les pays nordiques, vous commencez votre vie d'étudiant avec une prestation tous les mois. Vous avez une sorte de revenu universel. On en a beaucoup parlé lors de la dernière campagne présidentielle. Et ça a un effet, c'est que, y compris les plus riches et les classes moyennes le touchent. Et donc finalement, cette stigmatisation grandissante qu'on a des publics les plus pauvres, cette critique de l'assistanat, elle monte aussi en France parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un peu le nous et le eux. Avant, le nous et le eux, c'était que le eux, les riches. Et maintenant, c'est les eux, les riches et le eux, les pauvres qui viennent qui sont les privilégiés du système. C'est évidemment pas vrai. Hein, mais...
D'où ce sentiment d'être pris en étau. Et alors là, on a parlé des classes moyennes inférieures, mais alors, est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant sur cette différence entre ce qu'on appelle la classe moyenne inférieure et ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure? Comment est-ce qu'on peut caractériser ces deux groupes en termes d'emploi, par exemple?
Alors, en termes d'emploi, on va être, dans le cas de la classe moyenne inférieure, sur des métiers comme des métiers de manutentionnaire, tous les métiers de service, téléopérateur, téléconseiller, ou bien les métiers qu'on appelle du care, c'est-à-dire aide-soignant. Donc, tous ces métiers qui, finalement, nécessitent pas beaucoup
de diplômes, donc des gens qui sont peu diplômés, puis au-dessus, on va être sur des métiers plutôt de contremaître, de chef de rayon. De,
ça, c'est les classes moyennes supérieures.
Voilà, donc des gens ou des professeurs, donc des gens qui vont avoir un diplôme un peu supérieur, une situation un peu plus assise financièrement.
Et ce qu'on remarque, c'est que pour les classes moyennes supérieures également, là encore, l'effort fiscal demandé à ces classes moyennes supérieures serait plus élevé en France par rapport aux revenus. Sandra Wabian.
Alors, oui, on peut le dire comme ça, mais on peut le dire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est surtout qu'il y a assez peu de redistribution des hauts revenus vers les bas revenus en France, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les publics les plus riches sont beaucoup plus taxés, en fait, qu'ils ne sont en France. Et c'est vrai que parmi les éléments de la colère des derniers mois, il y a notamment la suppression de l'ISF, qui peut être considérée comme un symbole, mais pas que, parce qu'il y a quand même 3 milliards d'euros qui étaient en jeu, donc c'est pas non plus négligeable, mais surtout qui donne le sentiment que finalement, c'est toujours ceux du milieu qui payent, et que les riches s'en sortent.
C'est intéressant de voir, par exemple, qu'au Royaume-Uni, les allocations chômage sont forfaitaires, donc elles ne sont pas proportionnelles. Et donc ça, par exemple, elles ne sont pas proportionnelles aux revenus. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose qui défavorise les plus aisés. Sandra Wabian, ce qui est donc moins ce qu'on pourrait attendre du Royaume-Uni et dans l'imaginaire qu'on peut en avoir.
Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils sont dans un système où, ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont davantage sur un système de prestations universelles. Par contre, les montants sont plus faibles qu'en France. Donc, et d'une certaine manière, il y aurait, à mon sens, un besoin en France d'aller vers cette universalité, puisque sinon, on découpe la population en les méchants et les gentils, donc les méchants pauvres qui reçoivent des allocations et puis les gentils qui travaillent et qui, eux, n'ont pas ces aides. Et on effrite la solidarité en France.
Alors, c'est pas encore le chemin qui est pris, mais il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, la suppression de la taxe d'habitation, notamment. La baisse d'impôt sur le revenu qui est prévue au 1er janvier 2020, à tel point qu'on a pu entendre qu'Emmanuel Macron était devenu le président de la classe moyenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra Wabian ?
Alors, sur les mesures qui ont été prises suite à la crise des Gilets jaunes, effectivement, elles ont eu, et notamment l'augmentation de la prime d'activité, elles ont eu un effet très net sur les classes moyennes. Donc il y a eu un rattrapage qui a été fait, qui a d'ailleurs dynamisé la consommation et donc a rattrapé un petit peu les mesures du début du mandat. Par contre, sur la question des impôts, je serai un peu plus circonspecte, puisqu'en fait, aujourd'hui, ne paye des impôts que la moitié de la population. Donc, en fait, quand on diminue
l'impôt sur le revenu.
Donc, quand on diminue l'impôt sur le revenu, finalement, on touche déjà les publics les plus aisés. Et puis, en parallèle de ça, on a d'autres types d'impôts, comme la TVA, par exemple, qui ne bouge pas, ou la CSG. Et donc, ce sont des impôts qui, en volume, pèsent de plus en plus lourd. Donc diminuer les impôts, certes à court terme, les gens peuvent se dire « Ah, c'est super, je vais avoir plus de marge de manœuvre financière ». Par contre, on va vers une dynamique qui est moins redistributive.
C'est une dynamique de court terme, selon vous, parce qu'il y a un chiffre qui est sorti. Selon l'Institut des politiques publiques, les Français situés entre les 25% les plus pauvres et les 25% les plus riches, donc 50% de la population, devraient voir augmenter leurs revenus de 3% en 2020. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Et on constate quand même une forte augmentation, mais alors est-ce qu'elle va se restreindre à l'année 2020?
Ce qui est sûr, c'est que les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron ont effectivement rééquilibré les choses. C'est-à-dire qu'il y avait eu avant ces mesures une augmentation du pouvoir d'achat, notamment chez les plus aisés, et très faible chez les classes moyennes. Et grâce aux différentes mesures qui ont été mises en place, il y a un rééquilibrage qui s'est produit. Et d'ailleurs, qui a un impact positif sur la consommation. Est-ce que ce sera durable? Je pense qu'on est dans une situation compliquée. On le voit là avec les retraites, avec les différents mouvements sociaux. On est un peu dans une guerre de tous contre tous, où chacun essaye d'obtenir le plus de gestes du président, comme si c'était lui qui avait finalement les clés du coffre-fort, ce qui pose quand même un souci de cohésion sociale et un souci d'équité. Est-ce que c'est celui qui va crier le plus fort, qui va obtenir le plus ?
Ça pose aussi des questions puisqu'on est dans une période de ralentissement de l'économie, alors au niveau mondial, et on peut se poser aussi la question des conséquences de cette stagnation des revenus, de cette augmentation du coût de la vie sur le quotidien des classes moyennes et sur les choix en termes de consommation. Écoutons, si vous le voulez bien, le témoignage qui a été recueilli par l'émission Les Pieds sur Terre en décembre 2018.
Maintenant, on travaille plus pour vivre, mais juste pour survivre. Moi, j'ai 3 enfants, une femme qui gagne pas un gros salaire, moi non plus. Moi, j'ai un salaire maxi de 1600. Ma femme a fait à peine 800 euros. Donc, les fins de mois, c'est compliqué, quoi. Même des fois, très compliqué. Après, comme je dis, tant qu'ils ont un toit, c'est le principal. Mais comme on n'a pas d'argent, ben, on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, quoi. Tout ça, les sorties au mois d'août, c'est parce qu'on a les chèques vacances, bien sûr, qu'on aura peut-être plus bientôt, qui nous permettait de faire des sorties, je dis pas des vacances, mais sorties parc, un petit restaurant, un petit... ce qui leur fait plaisir. Mais des moments, ils disent, oh, on n'en fait pas assez. Ben ouais, mais on peut pas, on n'a pas assez d'argent pour le faire. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est soit on met à manger dans le frigo, soit qu'on fait une sortie. Donc, ben, on privilégie à manger pour la semaine, donc il faut les nourrir. Donc, après, ben, il faut savoir se serrer, quoi, pour y arriver, malheureusement. J'ai jamais parti en vacances. Jamais. Ça fait 12 ans, 13 ans que je suis avec ma femme. Mon premier garçon, il a 7 ans, il n'a jamais été en vacances. Et il n'est pas prêt d'y aller pour l'instant.
Sandra Wabian, que vous inspire ce témoignage? Est-ce que, comme on l'entend ici, ce sont les loisirs, les vacances notamment, qui disparaissent en premier lorsque les comptes se resserrent?
Oui, ça c'est très net, on le voit entre les plus riches et les plus pauvres, donc 80% des plus riches partent en vacances contre 30% des plus pauvres. On le voit au niveau des pays, les pays les plus riches ont des taux de départ en vacances qui sont supérieurs, et en période de crise, le budget loisirs et vacances diminue. Donc quels que soient les angles, effectivement, c'est le premier élément sur lequel on va venir rogner pour garder un peu de marge de manœuvre financière pour le reste, puisqu'il y a beaucoup d'autres, évidemment, d'autres postes de dépenses.
Et justement, il y a une peur aujourd'hui des classes moyennes d'être enfermées à nouveau dans l'univers des besoins. Et si oui, est-ce que cette peur, selon vous, elle correspond à une menace réelle ? C'est-à-dire ne plus avoir d'espace du tout pour, effectivement, ce qui pourrait être considéré comme superflu et peut-être ne l'est pas.
Alors, tout à fait, puisque d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes ces pratiques de loisirs, les pratiques culturelles, les pratiques sportives sont extrêmement valorisées. Y compris même quand vous recherchez un emploi. Le fait d'avoir un peu de culture générale, le fait d'être parti à l'étranger, tout ça, ça fait partie d'un cursus qui est valorisé. Donc il y a cette notion de plaisir, de pas être que dans la contrainte en permanence. Et puis il y a aussi cette question d'être valorisé dans la société, d'avoir une place, d'être reconnu.
C'est notamment vrai, vous le disiez, pour les smartphones, mais pour les nouvelles technologies. On est dans une société qui va juger de plus en plus selon le niveau de consommation, selon les objets que l'on peut présenter. Est-ce que ça, c'est encore plus vrai qu'avant, Sandra Wabian?
Oui, c'est même plus que ça. En fait, il y a Boltanski et Esker, qui sont deux chercheurs, qui ont parlé d'une économie de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit plus seulement d'avoir un objet, il faut être capable de raconter une histoire autour de cet objet. Et donc, d'une certaine manière, les catégories aisées, non seulement elles possèdent des lieux de vacances, elles possèdent des maisons, mais en plus elles vont avoir tout un discours autour de ces lieux qui vont les aider à se construire une identité. Et donc le fait de ne pas posséder ou de ne pas partir en vacances, ça peut paraître anecdotique, mais d'une certaine manière, ça enlève aussi du contenu à ce qu'on peut raconter de soi. On voit bien que quand voilà, on est parti en vacances, on revient, on va en discuter avec ses proches. C'est un sujet qui va permettre d'avoir aussi un petit peu de légèreté dans les échanges.
Donc ça fragilise aussi l'insertion sociale.
Ça fragilise aussi l'insertion sociale à double titre, à la fois en termes de statut social, mais également en termes de lien social, puisqu'on sait aussi que toutes ces pratiques de loisirs, ce sont des pratiques qui sont très socialisantes, où on va rencontrer des gens, où on va pouvoir aussi entretenir des amitiés ou des liens familiaux.
Alors on a dit que notre système économique s'appuyait en grande partie sur la consommation et notamment sur la consommation des classes moyennes, mais ce qu'on constate aujourd'hui dans l'actualité, c'est que cette consommation a de plus en plus mauvaise presse avec l'exemple du Black Friday. Le gouvernement appelle à ne pas consommer au nom de la protection de l'environnement. Ça c'est tout de même assez inédit, Sandra Wabian.
Oui, il y a une part, je pense, assez juste là-dedans. Si on reprend un peu les mots de Souchon avec ces désirs qui nous affligent, il y a une forme de frénésie dans la consommation aujourd'hui. Évidemment, ceux qui sont tout en bas de l'échelle, eux, ont des difficultés à assouvir leurs besoins. Mais ensuite, on est quand même dans une société où les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour susciter le désir. Et donc, il y a peut-être un mi-chemin à avoir par rapport à une consommation d'accumulation d'objets dont on ne sait que faire ensuite parce que la mode a passé ou parce que finalement on a notre intérieur qui est rempli, qui effectivement se pose à mon sens.
Les mauvaises langues pourraient dire qu'il y a un certain cynisme de la part du gouvernement à répondre au sentiment de déclassement des classes moyennes par la sobriété, Sandra Ouabian, et une instrumentalisation de la nécessité de la transition écologique.
Tout à fait. Et c'est vrai que la sobriété, elle doit être choisie et non pas contrainte. Si on est on n'est plus dans une sobriété, si finalement c'est parce que le 15 du mois, vous savez pas comment vous allez remplir le frigo. Là, c'est plus de la sobriété. Là, c'est de la contrainte financière. En revanche, pour toute une reste de la population, et notamment les catégories aisées, il faut rappeler que les catégories aisées, c'est celles qui consomment le plus. En fait, mécaniquement, elles ont plus d'argent et donc elles consomment plus et donc elles ont plus d'impact, en fait, sur la planète. Et de ce côté-là, il y a peut-être un petit peu de sobriété à avoir, que ce soit en termes d'achat d'objets, mais aussi de déplacement à l'étranger, etc.
Et on arrive au terme de cette émission. Sandra Ouabian, une dernière question peut-être sur le modèle économique qu'il faudrait peut-être réinventer, parce que si on est dans une société qui ne pousse plus ces classes moyennes à la consommation, si on pousse ce modèle et cette idée jusqu'au bout, est-ce que notre modèle économique n'est pas amené à nécessairement évoluer? Et si oui, dans quel sens selon vous?
Il est de toutes les manières dans une période de transition, ça c'est certain. Qui se cherche. On ne sait pas très bien encore dans quel domaine, dans quelle direction on va aller. Mais il y a des directions qui sont déjà imaginées. Par exemple, il y a tout ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'au lieu de vous vendre des objets, on va vous vendre des services. Donc, par exemple, vous allez pouvoir avoir une machine à laver qui va fonctionner. Vous allez louer la machine à laver. Et du coup, celui qui vous loue la machine à laver, il intéresse qu'elle dure le plus longtemps possible, en fait. Donc, il vous vend un service. Il y a quand même une économie qui est présente. Mais néanmoins, on n'a pas exactement le même rapport à la production et la possession d'objets, par exemple.
Et on a du mal à imaginer que cette économie de la fonctionnalité dont vous parlez puisse nous faire parvenir à des niveaux de croissance tels que ceux qu'on a connus. Alors, est-ce qu'il faut abandonner cette idée, Sandra Ouabian ?
Oui et non. Aujourd'hui, on voit bien que la croissance, elle est tirée par le numérique. Elle est tirée par des services qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. Donc non, il y a tout à fait possibilité d'avoir, plutôt que de parler de croissance, de parler de bien-être. Puisque croissance, ça sous-entend qu'on va produire ces biens qui vont ensuite, d'une certaine manière, créer de la pollution. L'objectif, c'est pas que les gens achètent. L'objectif, c'est que les gens aient une situation qui soit une situation confortable et dans laquelle ils ont le sentiment de vivre bien.
Un modèle économique qui est à repenser et sur lequel, évidemment, on reviendra dans ces prochaines émissions. Un grand merci, Sandra Ouabian.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Et justement, on en parlait, malaise à l'approche du Black Friday, à 2 jours de l'événement annuel. Les critiques et les menaces s'accumulent contre la grande opération promotionnelle et de consommation.
Surconsommation même, en tout cas, c'est la polémique ouverte en début de semaine par la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui dénonçait sur BFM, je la cite, une frénésie de consommation. En réaction, la Fédération des ventes en ligne, Conseil du commerce de France et l'opposition des Républicains l'accuse de vouloir dicter leur choix aux consommateurs. Les pressions ne s'arrêtent pas là, cependant, sur le Black Friday, puisque le soir même, les députés votaient un amendement pour interdire la publicité pour le Black Friday, sur proposition de la députée verte Delphine Bateau, célébration d'un modèle anti-écologique et antisocial, selon le député Mathieu Orphelin. Bref, vous l'avez compris, la pression monte vite cette année, malgré l'enjeu financier. Ce sont à peu près 6 milliards d'euros de dépenses l'année dernière, autant attendu cette année, dont il faut se méfier, dit cependant l'économiste et professeur à Paris 7, Philippe Moati, cofondateur, de l'Opsoco.
C'est très intéressant ce à quoi on assiste. On entend une petite musique très insistante sur les limites de l'hyperconsommation et le Black Friday qui devient finalement un symbole de ce qu'on ne veut pas. et les politiques, et y compris le gouvernement, qui embraillent là-dessus et qui s'apprêteraient même à légiférer hein, pour commencer à mettre des limites hein, à cette frénésie de consommation qui, évidemment, devient intolérable par rapport aux enjeux environnementaux, mais par rapport auxquels on peut aussi se demander quelle est la portée sur le bien-être des gens. Voilà. Parce que, notamment dans notre enquête, on l'a vu, hein, beaucoup de ceux qui voulaient acheter, se retenaient d'acheter dans l'instant pour pouvoir acheter au moment du Black Friday, donc il y avait une anticipation, et donc un report d'un certain nombre d'achats, et puis les cadeaux qui vont être achetés à cette occasion ne seront pas achetés plus tard. Donc c'est pas 6 milliards d'apport net. Ceci dit, et c'est d'ailleurs l'un des points de la critique, on peut imaginer que ça fait acheter au-delà de ce qu'on aurait acheté s'il n'y avait pas eu cette fanfare de promotion. Et donc ça crée de la surconsommation, mais en même temps, effectivement, ça crée de la consommation tout court, et d'un point de vue économique, c'est un des moteurs de la croissance. Et on voit bien dans quelle contradiction nous nous trouvons collectivement, pas seulement le gouvernement. Donc je pense que le débat doit plutôt s'orienter à comment on peut réformer la consommation en réfléchissant en forme de dématérialisation de la valeur. C'est ça l'enjeu. Continuer à avoir la croissance de la consommation, mais une consommation plus dématérialisée et qui réduit son impact environnemental.
Impact également dénoncé par plusieurs ONG qui entendent se montrer pendant le Black Friday.
Oui, des ONG dont ATTAC, Youth for Climate ou Extinction Rebellion qui appellent désormais à combattre, là je les cite eux, la vision du monde d'Amazon, qui appelle aussi à une grosse action de désobéissance civile. En tout cas, la pression monte contre l'opération, puisque même des associations de préservation de la langue et des écrivains appellent maintenant à renommer le Black Friday. Et savez-vous comment, Tiffaine ?
Alors, pas du tout.
Eh bien, voilà, vendredi fou.
On passe au bref, les agriculteurs aussi sont sous pression. Troisième manifestation en 2 mois pour l'image, mais aussi pour les marges.
Avec des blocages d'autoroutes et des centaines de tracteurs dans Paris, la FNSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent effectivement une agriculture qu'ils disent malmenée, non seulement à cause des pressions sur l'utilisation de pesticides, mais aussi et surtout parce qu'on entre en période de négociation annuelle des prix avec la grande distribution, qui sera un test pour la loi Egalim, qui était censée rééquilibrer les rapports de force entre grandes surfaces coopératives agriculteurs. La loi remontant à novembre 2018 est déjà décriée comme peu ambitieuse ou à effet pervers hein, par les politiques. Même le ministre de l'Agriculture avait lui-même reconnu en octobre que le compte n'y est pas, citant l'exemple du litre de lait vendu à 34 centimes par l'agriculteur et 1 euro au supermarché.
Et pour finir, un revirement inattendu en Argentine. Le nouveau président, Alberto Fernandez, refuse le prêt du FMI.
Ah oui, premier positionnement économique fort du nouveau président kirchneriste, qui renonce à recevoir la dernière partie des 57 milliards de prêts, le plus gros au monde, c'est-à-dire 11 milliards, contractés par son prédécesseur Macri. Décision inattendue, en effet, alors que les relations avec le FMI semblaient constructives selon l'institution et que les finances argentines sont au plus mal, mais décision assez semblable à celle déjà prise en 2006 par le président Néstor Kirchner. Le FMI, lui, n'a pas commenté.
Merci beaucoup Xavier, on peut retrouver votre journal de l'écho sur notre site franceculture.fr et en podcast.
Looking in the mirror, but you can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful. You are beautiful just the way you are. You are beautiful. She wants to be like her, love to be like him. You wanna be like me. Why can't we just be who we are?
On se quitte avec la chanteuse Aya et son titre Beautiful. Merci beaucoup Sandra Wabian et Mathieu Plane de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, la classe moyenne sera-t-elle remplacée par les robots? On en parle avec Michel Forcé et Rachid Bouchareb. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou bien sur toutes les applications de podcast. On vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.